Bon, Andrew, tu es chercheur à l'économie de Paris, tu as plusieurs domaines de spécialisation, tu travailles sur des questions d'économie du travail, d'économie de la santé, mais aussi donc maintenant sur des questions d'économie du bonheur. Qu'est-ce que l'économie a à dire sur le bonheur? Pourquoi les économistes s'intéressent-ils au bonheur?
Ben, je crois que dans un sens, c'est la base de tout ce qui est l'économie. Tout ce qui est la microéconomie des individus, du comportement individuel, est basé sur un processus de décision. Et là, jusque-là, en économie, on imaginait que les gens maximisaient leur utilité. Il semble qu'on a une variable qui révèle cette utilité, qui la mesure, et ça, c'est le bonheur, la satisfaction ou le bien-être individuel. Les gens veulent être heureux, les gens agissent pour être heureux.
D'accord.
Donc ça, c'est l'approche économique du bonheur.
Et par rapport à d'autres disciplines qui viendraient peut-être plus naturellement à l'esprit sur cette question-là, comme la psychologie ou la sociologie, qu'est-ce qui différencie les économistes dans leur approche de la question?
Bah, l'analyse du bonheur, c'est un des rares sujets en sciences sociales qui allie toutes les disciplines, presque toutes les disciplines ensemble. Donc on en trouve en économie, on en trouve en gestion aussi, mais aussi sciences politiques, sociologie et psychologie. Et tout le monde amène sa spécialisation, ses compétences dans le pot commun. Donc c'est un lieu où on peut partager avec les sociologues qui ont des idées sur la famille, par exemple, qu'on n'en a pas en économie, que les psychologues n'en ont pas. Les psychologues ont des idées sur la cognition, le fonctionnement du cerveau, qu'on n'a pas non plus. En économie, on a des modèles de comportement de maximisation qui fournissent des prédictions en termes de comportement. Maintenant, on peut allier ces prédictions avec la mesure de l'utilité sous-jacente. Donc, chacun sa spécialisation, mais c'est un sujet qui se mélange très facilement et j'en suis très heureux.
D'accord. Et donc, compte tenu de ce qu'on sait maintenant, effectivement, en économie, donc toutes ces connaissances qu'on a accumulées sur les individus et le bonheur, comment est-ce que j'évalue, moi, personne individuelle, mon bonheur?
Il faut savoir quelques variables clés. Quel âge tu as, par exemple? C'était pas censé me dire. Le sexe, ça joue un tout petit peu. Niveau d'éducation est important. Surtout la santé, bien sûr. Mauvaise santé est très souvent une mauvaise chose. Hein. Et surtout le statut sur le marché du travail. Si on est chômeur, si on est dans un travail à plein temps qui nous réjouit. Donc ça, c'est les variables individuelles. Ce que apporte aussi l'interdisciplinarité de cette analyse, c'est le contexte social. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve en psychologie, qu'on trouve en sociologie aussi. C'est non pas seulement ce qui m'arrive, mais c'est aussi ce qui arrive aux gens autour de moi, qui sont importants pour moi. Et dans ce sens-là, le fait que moi, je gagne bien, l'effet sur mon bonheur dépend de ce que les autres gagnent aussi. Donc je me compare à eux et eux, ils se comparent à moi aussi, sans doute. Donc c'est non pas le fait d'être riche, mais aussi le fait d'être relativement riche.
D'accord, donc ça veut dire que les gens se comparent aux autres. Et donc sur quel mode? Si les autres sont plus riches aussi, ça me rend plutôt plus heureux, plutôt moins heureux?
Ça marche dans le même sens. Si moi je suis plus riche que les autres, je suis content. Si moi je suis moins riche que les autres, je suis mécontent.
D'accord. Et alors ça finalement, est-ce que par exemple donc sur la question du revenu, le fait que je préfère être plus riche que les autres ne peut pas paraître contradictoire par rapport à ce qu'on peut observer en termes de comportements sociaux, effectivement une forme d'endogamie ou en termes de sociabilité, j'aime bien habiter à côté de gens qui ont plutôt le même revenu que moi ou le même niveau d'éducation que moi.
Ça vient du fait qu'on ne sait pas qui sont ces célèbres autres à qui on se compare. Ça peut être nos voisins très proches, ça peut être un certain groupe bien défini qui ne sont pas forcément physiquement, géographiquement très proches. Les gens comme moi, par exemple, avec le même niveau d'éducation, mais qui ne sont pas forcément à côté de moi. Donc je veux bien que mes voisins soient assez riches pour ne pas peut-être me poser trop de problèmes pour bien payer bien des impôts pour qu'on ait des biens publics autour de nous. Mais aussi, je veux que nous tous, moi et mes voisins, soient plus riches qu'un autre groupe de comparaison qui peut-être habite pas à côté, mais qui habite un peu plus loin. Donc l'effet de biens publics locaux et l'effet de comparaison à un autre groupe, ça peut exister bien au même temps, mais non pas au même endroit géographique.
Et ça, on a déjà pu le mesurer ?
On a pu le trouver, par exemple, avec les données bizarrement chinoises, où les gens aiment bien que les voisins proches soient riches, mais veulent bien que les gens dans le village à côté soient pauvres. Dans ce sens-là, aussi dans les données nationales danoises, où on veut que nos voisins qui habitent dans la même rue, en fait, soient plus riches, dans le sens où on est satisfait si nos voisins sont riches aussi.
D'accord. Et donc là, tu avais cité auparavant un certain nombre de variables qui nous rendaient plutôt plus heureux ou plutôt moins heureux. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de les hiérarchiser ? Qu'est-ce qui compte le plus ? La santé, le revenu, le statut sur le marché de l'emploi ?
Ça dépend à quel moment on les mesure, parce qu'on parle pas mal de l'habituation et les comparaisons sociales, ce qui veut dire que quelque chose peut bien marcher dans un certain contexte et non pas dans l'autre. Prenons l'exemple du revenu. Le revenu, c'est très important pour mon bien-être du moment que j'en ai plus que 3. Et c'est très important pour mon bien-être au moment où je reçois une augmentation. Mais de façon plus générale, le lien entre revenu et bien-être est plus faible pour les raisons d'habituation ou accoutumance et pour les raisons de comparaison sociale. Or, il existe des variables où on ne trouve pas des phénomènes. Par exemple, on imagine qu'il y a un peu de comparaison sociale pour le chômage, mais il n'y a pas d'accoutumance, ce qui veut dire pour moi au moins que le chômage est une des variables les plus importantes pour expliquer le bien-être individuel. Pour la santé, il y a des travaux qui vont dans un sens, qui vont dans un autre, mais il est vrai que les gens en très mauvaise santé qui souffrent physiquement sont très malheureux. Donc il semble qu'on ne s'adapte pas aux souffrances et qu'on ne compare pas la souffrance non plus.
À celle des autres.
Voilà.
Maintenant, une question un peu plus d'actualité. On connaît une grave crise au niveau mondial. Est-ce que ça veut dire qu'on va rentrer dans une période de sinistrose et de perception de malheur pour les gens ou
Ça dépend un peu pour qui. Une des implications des comparaisons sociales, c'est que, comme dit le dicton, la croissance n'amène pas le bonheur, l'argent n'amène pas le bonheur. Ça va dans les deux sens. La croissance n'amène pas le bonheur, mais la décroissance n'amène pas le malheur forcément, du moment que ça arrive à tout le monde de façon égale. Donc si on perd tous 5% de pouvoir d'achat, je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup plus malheureux. Mais le problème avec une crise, c'est que ce n'est pas égal, ça frappe plus fort ici que là, il va y avoir des gens qui perdent leur emploi, et donc pour ceux qui perdent leur emploi, ça va être assez terrible.
Ok, merci beaucoup Andrew.
Merci à vous.